Chapitre 15. C'est la nuit. Comment tu peux affirmer ce genre de truc ? Grogna Boris. Moi, je vois pas la différence. Je le sens dans mon corps. Je dirais même qu'on est au milieu de la nuit. 1 ou 2 heures du mat. Si tu regardes bien, tu t'apercevras que l'obscurité est un peu plus dense que tout à l'heure. Noir, c'est noir, putain. Ils avaient marché des heures sans trouver le centre commercial qu'ils cherchaient. Ils avaient traversé des villages, des lotissements, des champs qui s'étendaient à perte de vue sous la cendre et la glace, une forêt pétrifiée, un cimetière, mais aucune zone commerciale. Égarés dans la campagne des environs de Paris, quelque part entre les Yvelines et l'Essonne, ils avaient perdu tout sens de l'orientation. Les fruits secs et les barres de céréales que Franck avait fourrés dans les poches de son manteau avant de partir leur avaient permis de tenir le coup, mais la lutte incessante contre le froid et le vent avait entamé depuis longtemps leur réserve énergétique. Ils ne résisteraient plus très longtemps s'ils ne trouvaient pas rapidement de quoi s'alimenter. L'allure de Boris se faisait hésitante, titubante. Franks, plus habitué que l'assistant réalisateur aux terribles conditions extérieures, l'encourageait sans cesse de la voix et du geste. « Là, peut-être !» Une ombre grise se dressait devant eux. Les bourrasques balayaient une surface lisse et plane qui évoquait un parking. Un peu plus loin, des formes blêmes, des voitures et un camion entièrement recouverts de cendres. Le bâtiment n'avait apparemment pas trop souffert des secousses telluriques. Ils s'y introduisirent par une brèche étroite sur un côté. Ils purent, une fois à l'intérieur, retirer leurs lunettes et baisser les pans de tissu qui leur protégeaient le nez et la bouche. Le rayon de la torche de Franks éclaira divers rayonnages jonchés de prises électriques, de fils, de fusibles, d'ampoules, de lampes de chevet et de bureaux, recouverts d'une fine pellicule grise et par endroits prisonniers de la glace. Le vent s'engouffrait en mugissant par les fissures et soulevait des tourbillons de poussière qui dansaient dans la lumière comme des essaims ivres. « Fais chier !» souffla Boris. « Un putain de magasin de bricolage !» Ils explorèrent les autres rayons, certains renversés, dévastés, plomberie, bois, quincaillerie, jardinage, sans rien dénicher d'utile, hormis des lampes de poche, des piles et une hachette dont l'assistant réalisateur s'équipa après l'avoir dégagée de sa gangue de givre. Elle serait, selon lui, nettement plus efficace en cas de baston qu'un simple couteau. « Baston contre qui ?» objecta Franks. « On n'a croisé personne. » Il y a forcément d'autres survivants quelque part. Ils découvrirent un cadavre dans les bureaux vitrés. Un homme d'une 50aine d'années renversé sur une chaise et pratiquement conservé par le froid. Une plaie au cou, dans la jugulaire, indiquait qu'il n'était pas mort de façon naturelle. Le sang gelé maculait les mèches grises de sa chevelure, sa chemise et le col de sa veste. Ses yeux grands ouverts et sa bouche béante exprimaient une stupéfaction éternelle. Boris désigna le coffre-fort entrouvert au fond de la pièce. « Vraiment pas de bol. Égorgé pour du fric juste avant le cataclysme. Mourir de ça ou d'autre chose, » murmura Franks. « Y a peut-être un flingue dans les parages. » Boris fouilla fébrilement les 4 tiroirs du bureau, qui contenaient seulement des dossiers, des papiers, des crayons et d'autres accessoires de papeterie. « S'il avait eu un flingue, il s'en serait servi, » objecta Franks. Son assassin n'avait qu'une arme blanche. « Je crève de faim, putain !» En général, les magasins de bricolage ne sont pas loin des supermarchés. Ils sortirent après avoir chaussé leurs lunettes et protégé le bas de leur visage avec les pans de tissu. Une pluie dense de cendres et de neige mêlées les accueillit dehors. Ils faillirent retourner s'abriter en attendant que les éléments s'apaisent. Puis ils y renoncèrent, la tempête risquant de les bloquer dans leur refuge pendant des jours et des jours. Franks perçut les échos d'un tumulte entre les mugissements du vent. Il se crut victime d'une illusion sensorielle. Puis, tandis qu'ils avançaient vers une autre masse grise qui émergeait de la nuit comme un tanker piégé par les glaces, les bruits se précisèrent. Grondements, crépitements, hurlements. Il s'arma du fusil, déverrouilla le cran de sûreté et d'un geste recommanda silence et prudence à Boris. Une lumière éblouissante brillait par intermittence dans le lointain et transperçait les rideaux serrés de brume et de flocons. Ils longèrent une grille habillée de cendres agglomérées. Le grondement était celui d'un moteur, d'un 4x4 aux roues hautes qui fonçait régulièrement en direction d'une sorte de muret et partait dans un dérapage contrôlé 10 de mètres avant de le percuter. « Qu'est-ce qui branle ce con ?» marmonna Boris. Des lueurs rageuses brillaient fugitivement en haut du muret, des coups de feu couverts par le vacarme du moteur et les hurlements du vent. Après son demi-tour, le véhicule parcourait une distance d'une 50aine de mètres dans l'autre sens. Ses phares éclairaient, au milieu des flocons et des cendres, Des silhouettes postées derrière des monticules, des voitures en stationnement sans doute. Puis, il piquait de nouveau à pleine vitesse sur le muret, d'où émergeaient d'autres silhouettes qu'il arrosait d'un feu nourri. Les balles miaulaient sur la carrosserie et soulevaient des gerbes d'étincelles. Franks devina qu'il s'agissait d'une tactique de harcèlement, destinée à épuiser les munitions des défenseurs et à préparer l'offensive des assaillants déployés à l'arrière. Il supposa également que le bâtiment assailli et défendu avec une telle ardeur contenait quelque chose de précieux. De la nourriture et de l'énergie, sans doute. Un trésor fabuleux dans les circonstances. Affinant son observation, il remarqua que le muret, d'une hauteur d'1,50 m environ, formait un arc de cercle devant l'entrée principale de la grande surface. Les occupants avaient probablement bouclé le bâtiment pour ne conserver qu'une seule issue. Les tirs sporadiques des assaillants ricochaient sur les cloisons ou sur les rideaux de fer tirés sur les vitrines. « Qu'est-ce qu'on fait ?» souffla Boris. « On n'a pas le choix, » déclara Franks. « Si on veut récupérer de la nourriture, il faut qu'on propose notre aide à ceux qui essaient d'entrer. On est dans la même galère qu'eux. On va se faire tirer comme des lapins, ouais. On restera à l'abri avec les autres en attendant que la situation s'éclaircisse. Encore une fois, on n'a pas le choix. » Ils s'approchèrent des silhouettes planquées derrière les voitures. Lorsque les phares du 4x4 les emprisonnèrent dans leur faisceau, Franks écarta les bras et garda le fusil en l'air pour signifier aux passagers qu'ils n'étaient pas animés d'intentions belliqueuses. Le véhicule fonça en grondant dans leur direction. Boris se jeta en arrière. « Putain !» Le véhicule pila à moins de 5,2 m. Des claquements dominèrent le ronronnement sourd du moteur au ralenti. Deux hommes émergèrent de l'obscurité et s'avancèrent de chaque côté dans la lumière, vêtus de passe-montagne, de gants, de parkas fourrés, de pantalons vert kaki, chaussés de rangers, brandissant des fusils d'assaut.
« Qui êtes-vous ? »
demanda l'un d'eux d'une voix forte.
« Des voyageurs égarés, » répondit Franks. « On a entendu des bruits.
Et vous ? »
« C'est moi qui pose les questions.
Vous venez d'où ?»«
De Buc. On s'est perdu. On cherche de la nourriture. »
Franks désigna la grande surface d'un geste de la main.
« Je suppose que c'est la même chose pour vous et qu'on ne vous laisse pas vous servir.
Vous n'êtes que deux ?»«
Il y en a une quinzaine d'autres à Buc.
Ils se terrent où ?»«
Dans une ancienne champignonnière. On est prêt à vous donner un coup de main à condition qu'on puisse se servir une fois qu'on sera rentré dans l'hypermarché. »«
Vous êtes armé ?»
Un fusil, des cartouches, une hachette, deux couteaux. Ils sont combien là-dedans?
On estime leur nombre à 30 ou 40.
Et de votre côté?
14 en tout.
Vous êtes militaire?
5e régiment du génie de Versailles.
On était en manœuvre dans le coin quand cette merde s'est déclenchée.
Et les autres derrière les bagnoles, ils sont aussi militaires?
L'interlocuteur de Franks marqua un temps d'hésitation.
Des civils. On les a trouvés en train d'errer dans le secteur à moitié morts de faim. Ils ont cherché un ravitaillement et ont trouvé cet hypermarché, mais quand ils ont voulu entrer, ils ont été cueillis par une grêle de balles. Ils ont essayé de négocier, les autres ont rien voulu entendre, alors quand on a croisé leur chemin, on a décidé de leur donner un coup de main.
L'homme désigna à son tour les silhouettes tapies derrière les voitures.
De toute façon, ils ont plus la force d'aller plus loin. Nous non plus d'ailleurs. On tente le tout pour le tout.
Où trouvez-vous l'essence pour votre véhicule?
On a une réserve de jerrycan à l'intérieur. Ça fait plus de 8 jours que le moteur tourne en permanence pour éviter que le gazole gèle. On en a encore pour 1 jour, grand max.
Et le reste de votre régiment, il est où?
Nouveau temps de silence.
Disparu dans une faille pendant le tremblement de terre.
Gobé comme des mouches.
Il reste plus que nous deux.
Sergent Dalbar pour vous servir.
Lui, c'est le soldat Martins.
Je suis Franks, et mon ami s'appelle Boris. Ils ont l'air d'avoir une sacrée réserve de munitions de l'autre côté.
Le sergent Dalbar avait combattu en Afrique et en Afghanistan. Il avait connu l'horreur là-bas. Pas seulement de la part des adversaires, Mujahideen kamikazes ou rebelles gavés de drogue du Congo, mais de la part des forces onusiennes, capables des pires atrocités pour obtenir des renseignements. Il avait lui-même participé au massacre de femmes et d'enfants dans des villages perdus dans les montagnes ou dans la brousse. Les casques bleus s'étaient comportés comme des bouchers, loin des objectifs des médias occidentaux. Accroupi dans la lumière des phares près de l'un des deux braseros qui projetaient des nuées d'étincelles enveloppées dans des replis de fumée noire, Dalbar parlait d'une voix monocorde, les yeux rivés au sol. À 30 ans, il avait déjà touché le fond des enfers. Et si le gouvernement n'avait pas mis fin à l'opération Tonnerre dans un Congo livré aux factions et aux pillages, il n'en serait jamais remonté.
Il avait menacé de crever les yeux d'un gosse de 3 ou 4 ans devant sa mère pour la contraindre à dénoncer les hommes du village qui appartenaient à l'armée rebelle. Elle avait parlé, des sanglots dans la voix. Il avait quand même crevé les yeux du gosse, parce que cette satanée guerre l'avait rendu complètement cinglé. Il entendait chaque nuit les hurlements de l'enfant et de la mère, et Dieu, pour le châtier, lui avait envoyé une nuit perpétuelle. Il aurait préféré mourir avec les autres dans le tremblement de terre. Aider ces pauvres bougres à trouver un peu de nourriture leur achèterait en partie des saloperies qu'il avait commises sur des terres lointaines. Le soldat Martins, lui, n'avait que 23 ans. Portugais d'origine, il avait intégré l'armée française 1 an plus tôt et avait reçu sa feuille de route pour la Somalie 3 jours avant le déclenchement du cataclysme. Il avait échappé à l'un des conflits les plus sordides et meurtriers du début du XXIe siècle, mais il n'avait pas gagné au change, avec cette nuit et ce froid perpétuel qui avaient rendu le pays plus hostile que le pôle Nord. Il n'avait pas de nouvelles de sa femme et de sa fille restées à Versailles, ni de ses parents repartis s'installer au Portugal, ni de ses potes supporters du PSG. Sa vie s'était envolée en fumée, comme ça, le temps d'un claquement de doigts. Il espérait rejoindre aussitôt que possible une partie du monde épargnée par la catastrophe. Franks déclara que la terre tout entière était prise dans la tourmente, que des pays avaient sans doute disparu, que d'autres étaient apparus, redessinant une nouvelle géographie planétaire, et qu'il faudrait des décennies, voire des siècles, pour évaluer les conséquences du désastre. Les 12 autres membres de la petite troupe, 5 hommes, 4 femmes, 2 adolescents et 1 enfant de 8 ans, les écoutaient d'un air grave. Appartenant tous à la même famille, venus de différentes régions pour fêter les noces d'or des grands-parents, ils avaient dormi dans la cave d'un pavillon aménagé sommairement en dortoir. C'est ce qui leur avait sauvé la vie, lorsque vers les 8h30 du matin, la première secousse avait soufflé la construction comme un château de cartes. Ils étaient restés coincés sous les décombres en attendant les secours, puis, comprenant que personne ne viendrait les tirer de là, ils avaient entrepris de se frayer un passage dans les amas de pierres et de poutres. La chute de l'immeuble voisin de 4 étages ne leur avait guère facilité la tâche. Ils étaient ensuite restés dans la cave pour ne pas affronter le froid glacial et s'étaient nourris des restes du banquet de la veille et des conserves que les grands-parents, de vraies fourmis, avaient entassées en grande quantité. Ils avaient brûlé les poutres, les meubles, tout ce qui pouvait servir de combustible, s'aménageant une vie relativement supportable et espérant le retour des jours meilleurs. Les jours meilleurs n'étaient pas venus. Ils avaient épuisé les réserves de nourriture et de bois. Les rats, de plus en plus nombreux et agressifs, avaient dévoré un nourrisson en exploitant un moment d'inattention de sa mère. Ils avaient décidé de se mettre en quête d'un nouvel abri et de nouvelles ressources. Après avoir récupéré des vêtements chauds dans les décombres, ils s'étaient aventurés à l'extérieur. Le froid avait emporté une femme, la mère du nourrisson dévoré par les rats, et un garçon, au bout de seulement quelques heures. Ils avaient repéré cette grande surface à peu près intacte, avaient tenté d'y pénétrer, mais repoussés durement par ses occupants, ils étaient repartis dans une nouvelle errance. Ils avaient rencontré les 2 soldats qui parcouraient le pays dévasté à bord de leur véhicule, leur avaient expliqué la situation et étaient revenus sur leurs pas, convaincus que leur seule chance de survie reposait sur la conquête de l'hypermarché. Après avoir entendu leur histoire, Franks songea qu'en transformant l'arche du feu de Dieu en un bunker inviolable et bourré de provisions, ils s'étaient comportés comme les salauds enfermés dans la grande surface qui refusaient de partager leurs ressources. Il avait cru tout prévoir, et le destin le condamnait à rejoindre les cohortes de rescapés condamnés à se battre pour ne pas crever de faim. Le visage impassible et les grands yeux noirs de Souria s'imposaient souvent à lui. Dalbar avait décidé d'une courte trêve avant de lancer une nouvelle offensive. Les assiégés avaient bouché les autres entrées et consolidé le bâtiment afin de contenir les éventuels assauts de véhicules béliers. Les 2 militaires avaient lancé leurs 4x4 blindés à pleine vitesse sur les cloisons extérieures. Ils avaient seulement réussi à cabosser la tôle étayée par des parpaings, des planches, des poutrelles métalliques et des rayonnages. Ils se demandaient où les gens qui se trouvaient à l'intérieur avaient pu récupérer une telle quantité d'armes et de munitions. Ils ont sans doute pillé une armurerie ou une gendarmerie, ou encore une caserne, lança Franks. Y a pas d'armurerie ni de caserne sur un rayon de plus de 15 kilomètres, dit Dalbar avec une moue. Leur groupe ne disposait que de 2 fusils d'assaut des militaires, de leurs pistolets automatiques qu'ils avaient confiés à 2 hommes, de 2 carabines et d'une 20aine de balles ramassées dans les ruines. L'irruption de Franks, avec son fusil de chasse et sa cartouchière pleine, était donc la bienvenue. La faim creusait les traits des femmes, des 2 adolescents et de l'enfant emmitouflés dans des duvets ou des couvertures. Leurs yeux brillaient à la lueur des phares du 4x4 comme des étoiles décrochées de la nuit. Les hommes, eux, arboraient l'air grave et concentré des combattants avant une bataille décisive, conscients que la survie des leurs reposait entièrement sur leurs épaules fatiguées.
« Et par le haut ?» demanda Boris. « Vous avez eu l'idée de passer par le toit ?»
Dalbar lui décocha un regard au vitriol.
« On y a pensé, figure-toi, mais c'est perché à plus de 12 mètres de hauteur. »«
Je suis sûr qu'il y a un moyen de grimper. »«
Te gêne pas si t'es si malin ?»
Boris ne se démonta pas.
« On peut faire le tour du bâtiment avec votre engin ?»«
On l'a déjà fait plusieurs fois. Je vois pas ce que... »«
Emmenez-moi. J'aimerais jeter un coup d'œil. »
Dalbar laissa quelques secondes ses mains gantées posées sur le bidon métallique qui servait de brasero.
« Admettons que t'y arrives. Qu'est-ce que tu ficheras là-haut ?
Chercher une trappe ou une autre façon de se glisser dans le bâtiment ? Si on n'a pas quelqu'un dans la place, on n'a aucune chance de les déloger.
Tu vas les chasser de là, toi tout seul ?
Je suis pas obligé d'être seul. »
Boris s'approcha à son tour du brasero et tendit ses mains au-dessus des flammes.
« Il y a des cordes ou des filins dans le magasin de bricolage qui est juste à côté. Une fois là-haut, je vous aiderai à me rejoindre.
Qu'est-ce qui te fait croire que t'arriveras à grimper sur ce toit ?»
intervint Franks.
« J'en ai pas l'air comme ça parce que je me suis un peu enrobé, mais j'ai fait pas mal d'escalade dans le temps.
Il y a combien de temps ?
C'est comme le vélo, ça s'oublie pas.